Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils leur dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Quel menteur celui-là. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, et là on est verset combien ? Ok, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alors, on connaît tous très bien cette histoire, et quand on lit cette histoire, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'histoire de la naissance de Jésus, c'est qu'on raconte un peu partout, c'est totalement différent, finalement, du texte biblique, c'est une autre histoire. On voit les mages qui arrivent dans les tables, et puis qui donnent leurs cadeaux. Or, on sait que les mages sont arrivés 2 ans après la naissance de Jésus, et qui ne sont pas arrivés dans les tables, déjà, c'est une première chose, donc ce n'est pas correct. Et puis, on sait que, eh bien, y a des choses qui ne sont pas correctes avec ce qu'on voit avec la petite crèche. Et nous, moi, ce qui m'a interpellé, et ce qui m'interpelle pour nous aujourd'hui, on ne va pas faire une étude théologique de ce qui s'est passé, mais on va juste relever quelques points. C'est qui sont ces mages, d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont là, et à quoi ils servent, finalement, dans l'histoire. Parce que Jésus est né, est-ce qu'on avait besoin d'eux? Pourquoi ils sont là? Ils arrivent comme ça, ils apparaissent. Et on nous dit que c'est des rois mages. Et la chose aussi qui est à remettre dans son contexte, c'est que ce n'est pas des rois. On a pu penser que c'était, les historiens ont pensé que c'était des rois, mais ce n'est pas des rois. Les rois mages, c'était des gens, c'était les érudits de l'époque, c'était des gens avec une grande connaissance, c'était des savants qui s'y connaissaient en agriculture, en mathématiques, ils observaient les astres, la voûte céleste. C'était des gens qui aimaient savoir les choses, connaître les choses. Et puis, c'était des gens qui avaient une influence dans leur pays, parce que c'était des gens de savoir. Tout le monde n'avait pas la connaissance à l'époque, d'accord? Aujourd'hui, c'est pas compliqué de savoir les choses. Vous êtes tous des experts dans le domaine où vous travaillez. Paul, c'est un expert en informatique, Sandy dans l'enseignement, Nadia aussi. On est tous des experts dans ce qu'on fait. On a eu une connaissance, on a été enseigné. À l'époque, ça ne marchait pas comme ça. Ça marche? Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que Dieu va dévoiler ses plans à des hommes et on ne sait pas d'où ils viennent. Mais finalement, quand on réfléchit un peu plus loin, on peut comprendre d'où ils viennent. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous souvenez de notre ami Daniel? On revient bien avant. Daniel, le peuple d'Israël qui se retrouve à Babylone. Et Daniel qui monte. Et on va lire Daniel chapitre 2, versets 47 à 48. Et on va voir ce qui arrive à Daniel. Daniel, on va pas faire toute l'histoire, mais juste lire ces deux versets. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux, et le Seigneur des rois, et il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite, le roi accorda une position élevée à Daniel, et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Et vous vous souvenez, c'est quand Daniel a pu interpréter plusieurs rêves que le roi avait faits. Et puis là, on se rend compte que ce gars-là, il dit pas n'importe quoi, il sait ce qu'il dit. Et il nous dit qu'il a cette révélation de son Dieu. Et le roi va reconnaître que son Dieu est le Dieu des dieux. Et à partir de là, notre ami Daniel va devenir le chef de tous les sages, de tous les penseurs, de toute l'élite de son temps. Et vous avez ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, hein, je n'ai pas l'accent, mais vous voyez, ça passe bien. Et puis, eux aussi, ils vont avoir une position d'autorité. Et de là, vous pouvez imaginer que eh bien, Daniel va partager son savoir, va partager sa connaissance. Et Daniel, il va laisser dans ce pays, il va laisser dans cette partie du monde toutes les prophéties. Et là, on a ces sages qui, des centaines d'années plus tard, eux, ils savent. Et ils n'ont pas oublié ce que Daniel. Ils sont au fait des prophéties de Daniel, de ce qu'il avait dit, de certains récits bibliques. C'est des gens qui aiment la connaissance, qui aiment savoir ce qui se dit et ce qui se fait. Et puis, eux, ils observent les astres. Et le jour où une étoile arrive, ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et si vous lisez les écrits, ils vont dire... C'est bien l'étoile du roi, l'étoile de voilà, ce n'est pas le terme exact, mais ils reconnaissent cette étoile comme étant l'étoile de la prophétie. Et là, ils vont commencer leur chemin et ils vont aller à la rencontre de ce roi pour l'adorer. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le verset Hérode fit appeler le verset verset 4. Le roi Hérode apprit cela et fut troublé en tout Jérusalem avec lui. Et il assembla les principaux sacrificateurs. Vous avez des... Merci. Vous avez les mages qui arrivent pour annoncer la naissance du roi. Des gens qui ont, qui se basent sur des choses qu'ils ont entendues, lointaines. Et qui, par la foi, ils vont prendre leur chameau, on les voit sur les chameaux hein, dans les récits, et ils vont commencer un long périple pour aller adorer ce roi. Et eux, ils se disent, ils voient cette étoile, et souvent on pense que l'étoile, elle était là. Non, ils ont vu l'étoile, ils savaient, ils y vont, et puis l'étoile s'éteint. Et ils arrivent où ? Ils arrivent au palais, parce que où doit naître un roi ? Au palais. Et là, ils vont annoncer, ils vont déclarer au roi, voilà, un roi est né. C'est eux qui sont annonciateurs. C'est eux qui déclarent les choses. Et puis, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien là, qu'est-ce qu'il fait, Hérode ? Et bien, il appelle qui ? Il appelle ceux qui savent. Les scribes, les sacrificateurs. Mais vous, vous savez. Vous devez être au courant de ça quand même. Vous connaissez les Écritures. Sortez vos parchemins. Dites-moi où il doit arriver, à quelle heure ? Parce qu'il va prendre ma place, ça ne va pas. Alors, il appelle ceux qui savent. « Venez les gars, s'il vous plaît, dites-moi où il doit arriver. »« Ah bah, il doit arriver à Bethléem. » Et là, ils vont lui dire. Mais moi, ce qui m'interpelle vraiment, c'est qu'ils étaient à 8 kilomètres de Bethléem, ils avaient toutes les prophéties, ils avaient la connaissance, et pourtant, ils passent à côté de la naissance du roi. Et c'est des gars qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres qui vont leur annoncer « Il est né ». Parce qu'eux, ils ont cru, ils sont venus par la foi, ils s'attendaient à voir un roi dans le palais et puis ils ont découvert un petit bébé près de sa maman. Et ils ont réussi et ils se sont prosternés devant le petit bébé. Ils l'ont adoré et ils sont repartis, ils lui ont fait des cadeaux. Et là où on voit que ces mages ont tout compris, c'est dans les cadeaux qu'ils vont donner à Jésus. Ils vont lui donner premièrement l'or. L'or, c'est le symbole de quoi ? C'est, on donnait ça au roi. Mais c'est aussi le symbole biblique de la sainteté, de la divinité, pardon. Ils reconnaissent que ce petit enfant-là, il y a quelque chose de divin. Et eux, ils le reconnaissent. Le peuple de Dieu ne le reconnaît pas, mais eux, ils le reconnaissent. Ensuite, ils vont donner l'encens. L'encens, qu'est-ce que c'est l'encens ? L'encens, c'est une résine qui est tirée d'un arbre, qui coule. Et puis on l'utilise quoi ? On l'utilise pour parfumer, on l'utilise pour amener une bonne odeur. Et l'encens, c'est le symbole de la sainteté et de la justice. Et ça va nous symboliser quoi ? La volonté de Jésus de mourir pour nous. Et après, qu'est-ce qu'on a ? La myrrhe. Donc ça, c'était utilisé pour embaumer les corps et tout ça. Et c'est le symbole eh bien, de l'affliction, du mal, de la souffrance. Et bien, tout est expliqué là, avec trois cadeaux. Ils ont tout compris, nos mages. ils avaient une compréhension véritable du plan de Dieu, alors qu'ils ne font pas partie, entre guillemets, du peuple de Dieu à l'époque. Et eux, ils ont compris le plan de Dieu. Et ceux qui étaient là, avec leur script, à suivre toutes sortes de rituels, de cérémonies, de choses qui leur semblaient importantes, ils passent à côté. Mais complètement à côté. Mais ce qu'on retient là, dans cette histoire, c'est que Dieu révèle toujours ses plans. Et si nous, on n'est pas disposés à les entendre, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui va les entendre à notre place. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est nous. Et il faut qu'on se pose cette question. Ce qui m'interpelle ce matin, c'est est-ce que Dieu nous a révélé ses plans? Est-ce qu'il nous révèle ses plans encore pour notre vie? Ou est-ce que juste on vit dans une habitude chrétienne, dans une habitude de vie, et puis on peut passer à côté de certaines choses? C'est ce qui m'a interpellé. Je me suis dit, ces mages-là, ils ont compris quelque chose. Les Juifs avaient tous les avantages. Ils étaient à 8 kilomètres. Ils avaient toutes les prophéties. Et pourtant, ce n'est pas eux qui ont annoncé la naissance du roi. L'annonce a été faite par nos amis les mages. Alors, moi, ce matin, j'aimerais qu'on se pose cette question. Jésus est né pour mourir. Jésus est né pour donner sa vie. Et nous, on a accepté Christ dans notre vie. On va prendre la Sainte Cène. On se souvient de sa naissance là, par cette histoire. On va se souvenir de sa mort et on va se réjouir de sa résurrection. Et on a entendu des choses quand même assez intéressantes ce matin, que Dieu libère les captifs, qu'il nous libère. Quelle est la dernière libération que tu as vécue dans ta vie? Quelle est la dernière délivrance que tu as pu vivre? Quand je dis ça, attention, c'est, je ne parle pas de choses mystiques, je parle, voilà, quelle révélation as-tu eue pour ta vie? Et on se pose la question, est-ce que Seigneur, je ne suis parfois pas trop préoccupé ou trop sous tension dans ma vie et que je passe à côté de tes plans pour celle-ci? Et parfois, on est tellement préoccupé, le travail! Moi, j'ai du travail en ce moment, c'est la folie! Et souvent, je me dis, mais Seigneur, faut que j'arrête là, je suis trop préoccupé, ça prend trop de place! Et quand ça prend trop de place, il faut dire stop! Parce qu'on a décidé qu'il était le maître, le seigneur de notre vie et qu'on voulait le suivre. Et parfois, il y a des choses qui viennent comme ça, qui viennent. Et à l'époque, c'est la religion, c'est les rites, c'est toutes sortes de choses qui sont venues et qui ont remplacé, qui sont devenues leur Dieu plutôt que le Dieu lui-même. Et c'est des gens lointains qui sont venus pour adorer pour qui il était. Et nous, on veut se poser la question, est-ce qu'encore aujourd'hui, je suis capable d'adorer Dieu pour ce qu'il est? Et on va passer une nouvelle année. Je ne vais pas prêcher sur la nouvelle année, mais j'aimerais qu'on conclue cette année en se disant, Seigneur, j'aimerais être reconnaissant de ce que tu as fait cette année pour moi. J'aimerais me souvenir de ce que tu as fait cette année encore pour moi, de ce que tu as opéré. Et dimanche prochain, Fred y prêchera sur l'année prochaine. Mais là, on veut conclure cette année et dire, Seigneur, je veux entrer dans la reconnaissance. On a entendu papa qui a prêché 3 dimanches sur le petit nuage qui devient un gros nuage. Mais la reconnaissance, l'adoration réelle qui est le nuage annonciateur d'une bénédiction. Vous vous souvenez de cette prédication? Eh bien, on veut ce matin, voilà, lever une adoration, un parfum de bonne odeur. On a chanté des chants, tout ça, on l'a fait, mais on veut encore le faire. On veut se disposer chacun personnellement et se dire, Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour toi? Comment je me suis investi dans tes plans? Est-ce que j'ai reçu quelque chose? Il y a des choses qui ont été difficiles. Comment est-ce que j'ai pu voir ta main dans ces choses difficiles? Parce que la Bible nous dit que tu ne m'abandonnes pas. Et ce matin, j'ai reçu qu'il y a des personnes, vous devez être maintenant consolidées dans votre appartenance en Christ. Ça a trop chancelé cette année. C'était trop... Il faut être consolidé maintenant. Et ma femme, elle m'a dit une phrase cette semaine, et ça m'a marqué. Elle m'a dit, tu sais chérie, on est tous sensibles. Je dis, bah c'est vrai ça, on est tous sensibles. Il suffit que je te dise un mot de travers, une parole qui ne te plaît pas, et ça va piquer. Elle me dit, on est tous sensibles, on l'est tous. On peut avoir des apparences, mais on est tous sensibles. Mais on fait le choix d'être fragile ou non. Et ça, ça m'a impacté. J'ai dit, c'est vrai. La vie, elle est dure, elle n'est pas simple, mais on est des enfants de Dieu. il y a sa force avec nous, sa puissance, sa gloire, il doit se manifester. Il y a des choses qui doivent bouger. Et si ça n'a pas bougé cette année, il y a des choses qui se sont un peu encroûtées, qui se sont atrophiées, il faut que ça bouge. Et ça, c'est à nous de se remettre en question. Dieu ne va pas le faire pour nous. Il nous a tout donné, on a tout. On a tout, on a la parole de Dieu, on a tout. On sait tout. On n'a qu'à lire et mettre en pratique. Et quelqu'un m'a dit, mais moi, les expériences avec Dieu, bon, c'est pas ça. Mais si, aujourd'hui, Dieu est vivant en nous, on doit vivre des choses avec lui. Si on ne vit rien, notre foi, elle est juste intellectuelle. Et Sandy, ce matin, elle nous a invités, elle a dit, voilà, on va recevoir. Et moi, j'ai observé. Est-ce que quelqu'un a reçu vraiment ? On va dire, oui, ce n'est pas l'apparence. Oui, ce n'est pas l'apparence. C'est pas quand on reçoit, ce n'est pas comme un mail, on ne se met pas à trembler par terre, d'accord ? Il n'y a pas de signe, forcément. Mais la question, c'est comment je fais pour que quelque chose qui est dans ma tête, dans ma connaissance, dans mon savoir, descende dans mon cœur et produise quelque chose de spirituel ? C'est ça la question. Eh bien, c'est notre reconnaissance, notre adoration, dire « Seigneur, je reconnais, voilà, ça chauffe dans ma tête, je comprends ça, mais Seigneur, j'ai besoin de vivre quelque chose. » Et dans la prière, Seigneur, je viens le chercher. Et là, Dieu, il débloque quelque chose en nous, notre foi, elle se met en action. Et il produit quoi ? La manifestation de sa présence. On a chanté « L'Esprit est à l'œuvre ici ». Eh bien, est-ce que c'est juste ? Il y a l'œuvre ici, dans la maison de Dieu, au sein de ses enfants, de cette famille, mais il est vivant aussi dans ma vie personnelle. Dans mon couple, quand je suis tout seul chez moi. Et ce matin, on va passer un temps de prière avant de prendre la Sainte-Seine. Et on va remercier Dieu en tant qu'Église pour tout ce qu'il a fait. Cette année. Est-ce que quelqu'un peut me citer des choses qu'il a fait cette année ? Moi, j'ai une liste comme ça. Mais peut-être que j'en oublie. Mais dans l'Église, je ne parle pas pour vous. D'accord ? Après, on parlera pour vous. Chacun, ce sera personnel. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans l'Église, au sein de notre Église cette année ? Et il faut savoir se poser et dire, voilà, il y a eu ça, Seigneur, il y a eu ça, il y a eu ça, je reconnais que c'était toi. Et on doit le reconnaître ensemble, parce qu'on est tous concernés. Ça marche ? Alors, on a Emmanuel et Sonia. C'est une des choses que Dieu a fait cette année, il n'y a pas si longtemps. Alors, il y a eu quoi d'autre ? Je vous fais participer. Les baptêmes, il y a des baptisés ici ? Faites-moi un signe. 1, 2, 3, 4, 5 baptisés déjà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Les naissances. D'ailleurs, j'ai oublié de vous annoncer quelque chose de fort. Michael et Rebecca ont eu leur petit bébé Daniel hier dans la journée. Un petit bébé. 25, pardon. Je suis encore décalé. Le 25, d'accord, le 25. Un bébé de 3 kilos, combien, chérie ? Parce qu'on aime bien savoir le poids, je ne sais pas pourquoi. C'est le truc, tout le monde, il pèse combien ? On s'en fout, écoute, il est vivant. Mais la maman, elle s'en fiche pas, mais les hommes, nous. C'est vrai, c'est juste ça. Donc voilà, vous savez ça, donc il y a des belles choses qui se passent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?
Les femmes enceintes.
Les femmes enceintes, c'est des bénédictions, ça ?
Oui.
Ah bon ? J'entends rien. Dieu a parlé. Qu'est-ce qu'a dit Élise, Dieu ? Élise, il faut noter. Attends, j'entends pas. Viens prendre le micro. Alors, c'est bien ça, parce que j'allais appeler un peu l'équipe d'intercession, parce que vous savez, il y a des gens qui prient beaucoup, on reçoit beaucoup de choses et parfois on oublie. Alors, rappelle-nous, Élise. C'est important, hein ?
Alors, qu'est-ce que Dieu a pu nous dire ? Donc Dieu, il nous a dit en fait de revenir à lui, que le temps a été compté, que le temps s'est écoulé. Dieu, il nous a dit aussi qu'il nous abreuvait, il nous laisse pas pour toujours dans un désert. Quand on est assoiffé, c'est parce qu'il veut nous mener auprès de son cœur et il veut nous remplir tout à nouveau. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Dieu, il nous a dit de lever la tête vers lui. Dieu, il nous a parlé aussi par rapport à l'espérance. Dieu, il nous a parlé au fait qu'il voulait nous remplir tout à nouveau. Qu'est-ce que Dieu a encore dit ? C'est bien, ça, le travail de mémoire, de faire fonctionner la mémoire. Dieu nous a dit, de nous tenir dans la sanctification, de croire qu'il reviendra, que son retour est vrai et réel. Dieu, qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre ? Dieu, il nous a dit de s'appuyer sur lui, qu'il est le refuge, qu'il est notre forteresse. Et après, il y a encore plein de choses.
Bon, alors reste là, Élise. On va prier. Après, vous devez savoir aussi sur le plan matériel. L'Église, on est là aujourd'hui. On a passé des temps difficiles en tant qu'Église. Fermer les portes. Dieu a protégé l'Église. Les murs, ne serait-ce que ça, Dieu vous a protégé. Certains ont vécu des choses. D'accord ? Il y a eu des guérisons, il y a eu des conversions, il y a eu tellement de choses exceptionnelles. Alors, Élise, tu commences à prier, remercier Dieu pour tout ça ?
Oui, Seigneur, on veut se tenir devant toi ce matin avec ce cœur rempli de reconnaissance, rempli, Seigneur, d'adoration. Seigneur, nous voulons lever nos voix vers toi, que nos bouches s'ouvrent.